On va se tourner dans le livre du prophète Ésaïe. La louange. La louange, ça fait tellement de bien. Et la psychologie pourrait nous expliquer quelques-uns des bienfaits de la louange. On pourrait même, nous aussi, penser que elle nous permet de nous détacher de nos problèmes. Nous avons cette tendance dans notre vieille nature de nous regarder le nombril, d'avoir des phases d'introspection plus ou moins fréquentes, plus ou moins profondes, plus ou moins débilitantes, dans le sens où elles nous empêchent d'être au service de Dieu. Et ça, c'est une piste. La louange, elle nous fait oublier nos faiblesses pour nous concentrer sur la force de Dieu. Quand on parle de louange, on a souvent l'impression que on vient de faire 20 minutes ou 25 minutes de louange. Maintenant, on fait la louange avec un vidéoprojecteur, donc c'est une louange supérieure. Non, la louange, ça vient du cœur. C'est de reconnaître en Dieu, de reconnaître qui il est, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il va faire. Et dans le passage que nous allons lire aujourd'hui, le chapitre 25, qui est page 691 dans la Bible à la colombe, si vous avez une Bible qu'on vous a passée, on va voir les raisons de louer Dieu. Et on pense que vous venez peut-être, c'était il y a 2 semaines, on avait vu dans le chapitre 24 que Ésaïe voyait les jugements qui arrivaient sur la terre pendant la grande tribulation. On avait expliqué que cette période de la grande tribulation, ce n'est pas des souffrances endurées par les chrétiens aux mains des non-croyants, mais c'est Dieu qui exerce un jugement sur la terre pour ceux qui le rejettent et ceux qui insistent à le rejeter. Et au chapitre 14, on avait vu qu'il y avait des gens, ceux-ci élèvent leur voix, ils poussent des acclamations de l'ouest, ils poussent des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière, le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël dans les îles de la terre. De l'extrémité de la terre, nous entendons des chants, honneur aux justes. Et on pense que ça, ce sont les personnes, soit les saints qui ont été enlevés, l'Église qui a été enlevée avec le Seigneur, et pendant que la grande tribulation s'abat sur la terre, ou peut-être ce sont des saints qui viennent à Dieu pendant cette période de la grande tribulation. Des gens qui réalisent qu'en fait tous leurs amis chrétiens qui les embêtaient à parler de l'Évangile, ils sont plus là et qu'il y a des catastrophes qui se produisent sur la terre. Peut-être ceux-là seront convaincus. Et beaucoup des commentateurs s'accordent à penser que ce chant que Ésaïe entend, c'est le chant peut-être du chapitre 25. Et ce chant commence par « Éternel, tu es mon Dieu ». Éternel, tu es mon Dieu, c'est une raison de louer le Seigneur. On commence à lire, souvent les nouveaux chrétiens ou les personnes qui se disent « Tiens, je vais voir ce que la Bible a à dire », commencent à lire la Genèse, par la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome. En général, ils s'enlisent dans le Lévitique. Ils n'en ressortent pas vivants. Et ils se disent, oh, c'est vieux, c'est tout. Mais une chose qui revient, c'est qu'il y avait des gens qui avaient un Dieu. Il y avait le Dieu d'Abraham. Il y avait le Dieu d'Isaac. Il y avait le Dieu de Jacob. Le Dieu d'Israël. Le vrai Dieu. C'est ce que la Bible annonce. Et là, la chose merveilleuse et pour laquelle on peut louer Dieu, c'est qu'il est aussi mon Dieu. Si je viens à lui, si je l'accepte dans mon cœur, il accepte de devenir mon Dieu. Et les non-croyants disent, oh là là, oh mon Dieu, est-ce qu'il est vraiment leur Dieu? Est-ce qu'ils ont vraiment mis leur confiance, leur amour, leur foi, leur espoir dans ce Dieu de la Bible? Si vous pouvez dire mon Dieu, vous avez une raison de le louer, de le célébrer, de le glorifier dans votre cœur, par votre vie, par des chants, par des paroles, par des poèmes, par des tableaux, par votre vie, par ce qui vous marque pour exprimer l'appréciation de quelque chose. Il continue en disant, « Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait une merveille. » Certains traduisent bien évidemment « des merveilles ». Et ce qui nous frappe ici, et là encore, c'est, on pourrait reprendre ces versets et vous demander à chacun de réfléchir, pas en cinq minutes, mais une semaine, et vous le lisez, comme Tonio mentionnait tout à l'heure. Et qu'est-ce qui nous frappe, c'est que c'est pas si tout va bien, si le soleil brille, s'il fait pas trop chaud, s'il fait pas trop froid, si j'ai un logement, si j'ai un travail intéressant, alors je te célébrerai, je louerai ton nom. Non, c'est inconditionnel. C'est une décision. Bien des choses dans la vie chrétienne, c'est pas basé, ça doit pas être basé sur nos sentiments. Les sentiments, ils varient. Ils varient au cours de la journée. Il y en a qui sont du matin, ils se lèvent, ils sont en forme, il y en a, il ne faut pas leur parler jusqu'à ce qu'ils aient eu une ou deux tasses de café, et même plus des fois. Les émotions, elles ne sont pas fiables. Mais votre volonté, votre décision, elle peut être fiable avec l'aide de Dieu. Ésaïe dit, je t'exalterai, je décide que je vais t'adorer, que je vais te louer. C'est une décision. Et ce qui est merveilleux, c'est que lorsqu'on décide de louer l'Éternel, lorsqu'on décide, on prend cette décision, au début, on n'a peut-être pas tellement envie. Dieu, tu sais que tout va mal, c'est lundi, j'ai mon patron qui vient de me réprimander, je ne vais pas y arriver. Mais si on décide de louer le Seigneur, à ce moment-là, notre attitude vis-à-vis de la vie, des choses, des circonstances change. Et c'est toujours l'histoire du verre à demi plein ou du verre à demi vide. On peut paniquer, on peut se dire « Oh là là, j'ai plus rien à boire » ou on peut se dire « Il me reste encore la moitié du verre ». Et la vie, c'est une constante occasion de décision, de croire en Dieu, d'être, j'aime pas dire le mot positif parce que ça fait penser à la psychologie un peu humaniste, de dire il faut être positif, il faut positiver. Mais la vraie façon de positiver, c'est de penser à Dieu. Parce que quand on pense à Dieu, on se rappelle tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est en train de faire et tout ce qu'il va faire basé sur ses promesses. Et là, les sentiments de désespoir, de déception, ces sentiments qui viennent de l'ennemi de nos âmes, ils s'en vont, ils sont balayés, ils sont comme des ombres qui s'envolent à la lumière du soleil. Tes projets, donc il y a cette décision, d'abord le fait qu'il est notre Dieu, il est mon Dieu personnellement. Il pourrait être le Dieu de l'Église évangélique, ou le Dieu de l'Église protestante, ou le Dieu de l'Église. Non, il est votre Dieu personnel. Il veut vous connaître personnellement. Et parce qu'il est mon Dieu, je peux prendre la décision de me réjouir de lui, de me réjouir de ce qu'il fait, même si mes circonstances, mes émotions ne sont pas au beau fixe ou ne sont pas les meilleures. Car tu as fait des merveilles. Tes projets conçus depuis longtemps sont fermes et solides. Dieu on décide de l'aimer, de le louer, parce qu'on a des tas de raisons de le faire. Ce n'est pas quelque chose de... Tiens, aujourd'hui, je vais adorer telle idole. Ou... Non, vous avez des raisons objectives d'aimer Dieu et de vous confier à lui. Il a fait des merveilles. Est-ce qu'il a fait des merveilles dans votre vie? Ou est-ce qu'il n'y a que des problèmes? Et il faut être très vigilant parce que l'ennemi voudrait que, encore une fois, qu'on concentre nos pensées sur nos problèmes. Qui n'a pas de problème ici? Bon, on est d'accord, on a tous des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde affecté par le péché et il y a des difficultés. L'existence, ce n'est pas facile et les non-croyants disent, pour vous remonter le moral, la vie est dure puis on meurt. Ça vous remonte le moral. Hein? Non, on a tous des problèmes, mais c'est la façon dont on les considère. Vous vous souvenez des 12 envoyés en terre promise, un par tribu, il y en a 10 qui ont vu les difficultés et il y en a 2 qui ont vu la grandeur de Dieu face aux difficultés. Qu'est-ce que vous faites quand il y a des difficultés? Est-ce que vous vous laissez submerger par les problèmes, les difficultés, quelles que soient ces difficultés? Soit des difficultés de santé, des difficultés de ressources financières, des difficultés émotionnelles, vous voudriez trouver un époux, une épouse, ça se passe pas, ou vous avez un mariage qui est sur le point de se rompre. Toutes ces difficultés, est-ce que vous regardez la difficulté ou est-ce que vous regardez Dieu qui est tout-puissant? Tes projets conçus, tu as fait des merveilles et tous, on peut penser aux bonnes choses que Dieu a fait dans nos vies, aux choses merveilleuses. Cette dernière bouffée d'air que vous avez insufflée. Respirez plus fort. C'est un don de Dieu, le don de la vie, le don des amis, le don de la beauté de la nature. On a, je ne sais pas si c'est James qui a travaillé pour mettre ces belles photos qui mettent les paroles en perspective, qui donnent la réalité des bénédictions de Dieu. Et il a conçu des projets. Génie, c'est je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas pourquoi vraiment je me sens appelé à partir. La bonne chose, c'est qu'elle sent que c'est Dieu qui lui demande de faire ça. Mais Dieu a des projets pour elle, Dieu a des projets pour vous, pour chacun de nous. Dieu a des projets. Ces projets, il les a conçus de toute éternité. Ça nous transpose dans une dimension qui fait éclater les petits problèmes quotidiens. Si Dieu a des desseins pour nos vies, et il l'affirme dans bien des passages. Un de mes passages favoris, c'est Jérémie 29, 11. « Je connais les desseins que je forme pour vous, dit le Seigneur. » Pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur, de bonnes choses. Donc même si rien ne va, la parole nous affirme, vous pouvez vous accrocher, que Dieu a des bonnes choses prévues pour vous. Ça ne veut pas dire nécessairement la richesse, la prospérité au sens de la doctrine de la prospérité, la santé, tout ce qu'on veut quand on veut, mais ça veut dire qu'il y a des choses qui sont bonnes pour votre vie, des choses qui vont compter pour l'éternité, des choses qui vont vous donner un sentiment d'accomplir quelque chose de valable avec votre vie. Et ces projets, ça peut, c'est pas nécessairement être missionnaire, être dans le service à temps plein. Ça peut être la meilleure épouse chrétienne qui soit possible. Ça peut être élever une famille selon les voies de Dieu. Ça peut être la meilleure institutrice chrétienne possible. Ça peut être d'instiller, de donner à des enfants le sens qu'il y a quelqu'un qui les aime et qui va leur demander des comptes en même temps. Dieu a des projets pour vous. Ça, ce sont des sujets de louange. Et puis, Ésaïe, j'allais dire le psalmiste, parce que vraiment c'est un psaume de reconnaissance que David ou l'un des psalmistes aurait pu écrire. Vous pouvez écrire un psaume. Est-ce que vous saviez ça? Vous pouvez prendre votre plume et laisser votre cœur s'épancher. Merci à Jenny pour d'avoir pris la peine d'écrire ses sentiments. C'est souvent une bonne chose que de mettre sur papier, par écrit, les choses que Dieu vous donne. Sinon, notre mémoire est passagère, surtout quand on prend de l'âge. J'aime bien, il y a un proverbe chinois qui dit que l'encre la plus pâle est plus puissante que la mémoire la plus forte. Même un marqueur pas très, très, très fort, il va se rappeler, vous permettre de vous souvenir de choses plus que votre mémoire personnelle. Le Ésaïe dit donc, il se réjouit, il va justifier son désir, sa décision de louange en regardant ce que Dieu a fait déjà. Et il dit à partir du verset 2, « Car tu as réduit la ville en un monceau de pierre, la cité forte en une ruine. Le donjon des étrangers a disparu de la ville, jamais il ne sera rebâti. C'est pourquoi le peuple puissant te glorifie, la ville des nations tyranniques te craint. » Toujours, bien sûr, lorsque ce n'est pas précisé, un débat, savoir est-ce qu'il s'agit d'une ville en particulier, est-ce que c'est la ville de Babylone, la ville de Babylone historiquement, ou la ville de Babylone qui symbolise les entreprises humaines, la Babylone religieuse et la Babylone commerciale dont il est question dans l'Apocalypse, ou est-ce que c'est simplement l'entreprise humaine qui est caractérisée par la ville? C'est intéressant, on en parlera au chapitre suivant, mais la ville a mauvaise presse. Je ne sais pas pour vous, mais si on faisait un sondage, où est-ce que vous voudriez vivre, dans une petite villa à la campagne, ou bien au centre de Nice, boulevard Gambetta, ou avenue Aimé Martin? Notre sentiment, c'est que oh, il y a trop de bruit, c'est trop sale. Mais on va voir que Dieu a prévu une ville pour l'éternité, la Nouvelle Jérusalem. Pourquoi ? Parce que c'est dans la ville qu'on trouve des gens. Notre foi n'est pas faite pour être vécue sur le sommet d'une montagne, bien installée, tranquille, sans personne pour nous embêter, comme on dit. Non, la vie chrétienne, elle est faite pour être vécue en communauté. C'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres que le monde saura que Dieu existe, que Dieu est réel, que Dieu, Jésus, est le Messie, que Dieu nous aime et qu'il a conçu un plan pour notre salut. Et c'est vrai que la ville, il n'y en avait pas à l'époque. On n'a pas connu encore de ville sans péché. La ville est arrivée après le péché originel. Au départ, le jardin d'Éden, population, 2 personnes. Ce n'est pas vraiment une ville. Et la ville a toujours été entachée par le péché humain, d'où la criminalité, d'où la pollution, d'où les embarras, d'où les embouteillages, d'où le bruit, d'où cette notion. Mais ici, Dieu parle de la ville comme symbole, je crois, comme symbole des entreprises humaines. Et cette cité forte, qui se croyait forte, elle est ruinée. Le donjon des étrangers a disparu de la ville, jamais il ne sera rebâti. Et là, le peuple puissant te glorifie. Le peuple est puissant, c'est le peuple de Dieu. Il n'est pas puissant par lui-même, il est faible, mais il est puissant dans sa faiblesse, parce qu'il dépend de Dieu. Et le peuple puissant glorifie Dieu. Par contre, la ville des nations tyranniques le craint. Les non-croyants, lorsqu'arrivera le moment de la grande tribulation, vont réaliser, ils vont avoir peur de Dieu, ils vont le craindre. Une autre raison de louer Dieu, c'est de voir la bonté qu'il manifeste pour les faibles. On vit dans un monde où les forts prospèrent, les riches deviennent plus riches et les femmes deviennent plus faibles et plus pauvres. Tu as été un refuge, verset 4, pour le faible, un refuge pour le pauvre dans la détresse, un abri contre la pluie battante, un ombrage contre la chaleur. Car le souffle des tyrans est comme la pluie battant un mur. Comme tu domptes la chaleur sur un lieu desséché, verset 5, tu as dompté le tumulte des étrangers. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, ainsi l'a été le chant des tyrans. Il y a beaucoup de descriptions de Dieu par certaines de ses caractéristiques dans la parole. On sait dans le livre de Jean qu'il y a 7 descriptions, il est la porte, il est la vigne, etc. Et là, il y a cette autre description qui est « Dieu est un abri contre la pluie battante ». Un parasol ou un ombrage contre la chaleur. Ça, c'est peut-être des descriptions que vous n'aviez pas en tête. Alors, elles sont expliquées au sens figuratif ici, parce que il dit que la façon dont les tyrans règnent, c'est comme une pluie qui nous tombe dessus. On ne peut pas y échapper. Nice a 300 jours de soleil, mais les 60 jours où il pleut plus qu'à Paris. Et on a cette pluie battante. Donc, on sait ce que c'est que de trouver un abri contre la pluie battante si on habite Nice. Il y a des moments où on voit l'avenue Aimé Martin comme un torrent qu'on pourrait descendre en kayak. On voit des bouches d'égout qui sont soulevées par la pression des eaux. Il faut faire très attention en voiture quand on roule, qu'on ne voit pas la chaussée. On risque de perdre une roue. Ça, c'est la pluie battante. Et Ésaïe pense que la façon dont on est opprimé, alors Dieu merci, je crois que l'influence chrétienne, l'influence du christianisme a fait que les idéaux de justice humaine, de socialisme, tout ça, ça a été généré quelque part par la foi chrétienne, par les valeurs chrétiennes. Et on vit dans un monde où, en France et en Europe, où il y a des protections contre certaines de ces choses. Mais la réalité, et on le voit avec le chômage qui grandit, c'est que les riches peuvent décider de faire ce qu'ils veulent. Et c'est comme une pluie qui nous tombe dessus. La pluie qui nous tombe dessus, non seulement, je ne sais pas si vous avez dit, bon, ben ça va, j'ai un parapluie, mais après, on part avec le parapluie, on s'aperçoit qu'en fait, la pluie, quand elle tombe très fort, elle rebondit. Elle nous prend par-dessous. Donc on a les chaussures trempées, on a les pantalons mouillés, on est trempé, même si on a un parapluie. En plus, le vent fait que le parapluie s'envole, se retourne. Non, avec Dieu, on a un abri contre la pluie battante. Il s'occupe de ceux qui sont dans la misère. Il est un refuge pour le faible, un refuge pour le pauvre. Et de la même façon, il est un parasol, un ombrage contre la chaleur. Ésaïe utilise la comparaison des rumeurs d'invasion, des attaques des étrangers, des attaques de l'ennemi, comme une chose qui nous tombe dessus, comme une forte chaleur. Il y a quelque temps, on a eu une petite canicule à Nice et on sait que c'est pénible. On se dit vivement l'été, qu'il fasse bon et chaud. Et puis on a quelques jours de température au-dessus de 30 degrés où la température ne baisse pas la nuit. Et là, on est prêt à mourir. Ah, la chaleur. Le test, c'est lorsqu'on commence à changer de côté dans la rue pour être du côté de l'ombre. On cherche l'ombre. Dieu est cette ombre pour nous. Il nous protège. Nous avons des raisons de le louer. Il est... Il nous dit, à partir du verset 6, maintenant, ce que Dieu va faire. L'Éternel des armées, les armées, c'est l'ensemble des populations angéliques, et dans le cas des anges, ce sont les anges qui ne se sont pas rebellés contre lui. Dieu a des forces à sa disposition incroyables. Et Dieu va préparer. On va lire, l'Éternel des armées fera pour tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, Un festin de vin vieux, de mets succulents plein de moelle, de vin vieux clarifié. Ça, c'est sans doute une allusion au festin des noces de l'agneau dont il est question dans l'Apocalypse, lorsque Dieu fera la fête avec son peuple. Il y avait un passage dans Matthieu qui nous montre qu'en fait, Jésus est impatient pour ce festin. Là, on va faire un pique-nique. J'espère que certains ou certaines, surtout de vous, ont préparé de bonnes choses. Mais là, ce sont des mets formidables, les meilleurs vins, des vins vieux mais clarifiés, sans les dépôts, des mets succulents pleins de moelle. Alors peut-être vous dire, oh, la moelle, c'est plein de cholestérol, c'est pas bon pour la santé. Rassurez-vous, il n'y aura plus de problème de cholestérol. Vous pourrez manger ce qui vous semblera bon. Et je disais qu'en fait, Jésus lui-même avait dit qu'il ne boirait désormais plus de ce vin, de ce fruit de la vigne, c'est Matthieu 26, 29, juste pendant la Sainte Cène, où il disait qu'il allait prendre ce repas et boire enfin ce vin. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Il n'y aura plus de danger d'alcoolisme, on pourra apprécier le bon vin clarifié que Dieu va préparer pour nous. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut mettre les choses en perspective, les difficultés présentes, les revers de fortune, les problèmes de santé, les pertes d'un être cher, la mort, on va y venir. Toutes ces choses, il faut voir à la lumière de ce que Dieu va nous faire connaître. Et le chrétien, il ne se définit pas par la taille de sa Bible, pas par le fait qu'il vient à l'église tout le temps, pas par le fait qu'il donne beaucoup d'argent à l'œuvre de Dieu. Le chrétien se définit par sa foi. Sans la foi, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Dieu nous a fait des centaines et des centaines de promesses dans sa parole. Et la façon dont on l'honore, la façon dont on lui plaît, c'est de croire à ce qu'il nous promet. Si vous êtes parent, vous savez qu'il n'y a rien de plus frustrant qu'un enfant qui ne croit pas à ce que vous lui dites. Combien de fois j'ai essayé de dire à mes enfants, venez, on va aller pêcher en montagne, ça va être formidable. Il y a des lacs, on pourrait faire des photos pour, en arrière-plan de champs, d'espoir. Mais ils disaient, oh non, je veux jouer à ma console. Je préfère jouer aux pêcheurs sur mon petit truc. Quoi. Et ce qui était merveilleux, c'est qu'une fois que j'arrivais à les convaincre ou à les forcer ou à les amener de force en montagne, alors là, ils disent que c'est pas vrai, mais je me rappelle de leur joie d'être en train d'attraper des truites dans un lac de montagne. Et quelque part, lorsque je leur promettais quelque chose, ils me disaient « Non, je te crois pas, c'est pas vrai ». Ça blesse, parce qu'on a les meilleurs sentiments pour eux, on veut les bénir. Dieu veut vous bénir. Et la façon dont vous répondez, c'est par la foi. Vous dites, Seigneur, je crois que ce que tu me dis, c'est vrai. Tu m'aimes et tu veux me bénir, tu vas me bénir. Encore une fois, ça ne veut pas dire richesse instantanée, plus jamais la maladie. Ça, c'est un extrême de cette vérité qui fait beaucoup de tort à la foi chrétienne, parce que lorsque les gens ne voient pas la richesse et la santé instantanée, ils rejettent le bébé et l'eau du bain. Ils rejettent toute la foi chrétienne. Dieu nous promet ces choses. Nous savons que nous avons une éternité qui nous attend où nous pourrons nous réjouir moment après moment d'être en présence les uns des autres et surtout en présence de Dieu qui sera au centre. Et c'est vrai que des fois on se dit, mais est-ce qu'on ne va pas s'ennuyer? Non, je peux vous garantir que toutes les joies que vous avez, elles seront là-bas au centuple, aux 10 000 fois plus fortes, des myriades de fois plus fortes. Dieu a des bons plans pour chacun de ses enfants. Verset 8, une raison pour laquelle on peut louer Dieu, c'est qu'il va détruire le mal, il va détruire la mort. La mort, elle est arrivée dans la race humaine par le péché d'Adam et Ève, parce que Dieu leur avait dit que le jour où ils désobéiraient, la mort entrerait dans la race humaine. Mais là, verset 8, il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple, car l'Éternel a parlé. La mort, c'est le dernier ennemi de la race humaine. Désolé de vous le dire, mais les statistiques sont encore implacables. C'est 100% de nous qui mourons. Il y a eu quelques exceptions, une ou deux dans l'Ancien Testament. Jésus est le premier né d'entre les morts. Il est le premier, et grâce à lui, la mort a été vaincue. C'est ce que Paul nous reprend dans 1 Corinthiens 15. « Mort, où est ta victoire ? L'aiguillon de la mort, le péché a été enlevé, payé une fois pour toutes. » Et j'ai oublié de lire le verset 7. « Sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples et la couverture qui couvre toutes les nations. » Aujourd'hui, le chrétien est frappé de l'incrédulité ambiante. Nous vivons dans un pays, nous vivons dans un monde, mais surtout notre pays en particulier, où la majorité des dieux se disent ne pas croire en Dieu. C'est la chose, ils pensent que c'est la chose intelligente à dire. Ils pensent que la science a démontré la non-existence de Dieu. Mais lorsqu'ils se retrouvent dans une difficulté, ils vont être les premiers à crier « Oh mon Dieu !» Et pourquoi est-ce que ça vous semble si clair, l'existence de Dieu, et pourquoi ça semble tellement un mystère et quelque chose d'impossible pour les autres? Il y a un passage qui l'explique. J'aime bien noter les versets 3-16 de la Bible, le plus célèbre étant Jean 3-16, mais si vous regardez dans la Bible et que vous allez voir les chapitres 3 et le verset 16, c'est sans doute une coïncidence que le Seigneur a peut-être aidé, peut-être c'est simplement... Mais ça me permet des fois de me rappeler de certains versets. Et si vous allez dans 2 Corinthiens 3,16, vous comprenez pourquoi les gens ne croient pas. Un peu plus loin, on va commencer par le chapitre 4, verset 3. « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, ça c'est une référence claire à Satan, au diable, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ qui est l'image de Dieu. » L'évangile est tellement... glorieux, il est tellement brillant, il est tellement évident. Le plan de Dieu est tellement unique que seul Dieu a pu concevoir un tel plan, venir en la personne de son Fils, mourir à la place des pécheurs pour que ces pécheurs aient sa justice et puissent être avec toujours avec Dieu. C'est parce que Satan a aveuglé les pensées. Satan, il a mis un voile et verset 14 du chapitre 3, un peu quelques versets avant, il parle, verset 13 même, « Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ceux qui étaient passagers, mais ils se sont endurcis dans leurs pensées. » Toujours le domaine des pensées. « Car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure. » Il n'est pas enlevé parce qu'il n'est disparaît qu'en Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Aujourd'hui, les gens peuvent lire la Bible, il y a un voile. Mais, verset 16, 2 Corinthiens 3, 16, la clé, quelque chose que vous pouvez encourager vos amis qui se disent « Je suis en recherche, mais je ne crois pas à ton Dieu. » Lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Il faut se tourner vers Christ, il faut le regarder, il faut le contempler, il faut voir sa vie, il faut voir ce qu'il a fait. Quelqu'un me demandait « Comment est-ce que je parle à une amie qui pense que je suis dans l'erreur, qui ne croit pas à ma foi ?» Je lui dis, je suggérais, c'est une idée qui m'est venue comme ça, demande-lui de lire le sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6, 7. Et demande-lui qu'est-ce qu'elle pense de la personne qui a professé ces paroles. Est-ce qu'il y a une sagesse ou pas? Est-ce qu'il y a une vérité qui bouleverse d'un coup ou pas? La clé pour la foi, c'est de se tourner vers Jésus-Christ. Ce n'est pas d'aller voir Vishnu, ce n'est pas d'aller voir des études, des religions comparées, c'est d'aller à la source, c'est d'aller à la vérité, c'est d'aller vers le Messie. Et lorsque vous vous tournez vers lui, le voile est déchiré. Et là encore, c'est une décision. Quand je me suis dit, je vais me tourner vers Jésus, je connaissais peu de choses de la Bible. Mais j'ai décidé, Jésus, si tu es vrai, si tu es réel, je veux me tourner vers toi. Et c'est lui qui déchire le voile que Satan met sur nos intelligences, sur nos pensées. Et il faut cette intervention, il faut que l'Esprit Saint intervienne pour nous donner la vue. Nous sommes des aveugles au naturel, nous n'avons plus d'esprit. Il faut que l'Esprit vienne en nous, il faut être né d'en haut, il faut être né de nouveau, il faut que nous naissions de l'Esprit. À cause du péché, notre esprit est mort. Nous ne pouvons pas avoir une relation avec Dieu. Mais l'Esprit de Dieu est autour de nous qui veut nous convaincre de justice, de péché, de jugement. Lorsque nous acceptons que nous sommes des coupables et que nous nous tournons vers Jésus, alors il vient vivre en nous et plus tard, il vient même vivre sur nous pour nous donner la puissance d'être des témoins efficaces pour lui. Et donc, à la fin des temps, Dieu va anéantir ce voile, la couverture qui couvre toutes les nations. Toutes les nations vont, finalement, il va y avoir des peuples, des gens de tous les peuples qui vont se tourner vers Jésus. Des Français, des Algériens, des Iraniens. Et déjà aujourd'hui, il y a des croyants de toutes les nations. Il anéantit la mort, on avait lu. Il essuie les larmes de tous les visages. Ça s'est repris dans l'Apocalypse. Il fait disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple. L'Éternel a parlé. Lorsque Dieu va... Souvent, nous avons honte d'être chrétiens. Parce que nous disons, ben Dieu, oui, ne répond pas toujours à mes prières. Ou... Il n'enlève pas les malheurs du monde. Encore une fois, le monde tel qu'il est, ce n'est pas le monde tel que Dieu le veut, c'est le monde tel que l'homme l'a rendu en obéissant à Satan. Mais un jour, Dieu va revenir mettre les pendules à l'heure. Je vois qu'il est temps de terminer, rassurez-vous. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on sera fiers d'appartenir au Seigneur. Vous pouvez être fier d'appartenir au Seigneur. Souvent, les nouveaux croyants ont un peu honte d'admettre qu'ils ont mis leur foi en Christ. C'est tellement bête, c'est tellement une manipulation de l'ennemi d'avoir enfin trouvé la vérité, d'avoir enfin trouvé la vraie raison de vie, la raison de notre existence. Ce n'est pas une chose dont nous devons avoir honte, c'est une chose dont nous devons être fiers et dont nous devons parler autour de nous. Et puis, une des raisons pour laquelle on peut louer Dieu, c'est non seulement il va faire toutes ces choses, mais il va aussi nous permettre de témoigner. En ce jour-là, on dira « Voici notre Dieu, c'est en lui que nous avons espéré, c'est lui qui nous a sauvés, c'est l'Éternel en qui nous avons espéré, Soyons dans l'allégresse. Réjouissons-nous de son salut, signifiant du salut qu'il nous offre. Nous avons des raisons d'être joyeux. Et au lieu d'être gêné, de parler, de partager l'évangile, on devrait dire, je vais vous parler du Dieu qui m'a sauvé, du Dieu qui m'aime et qui vous aime et qui a des bons plans pour votre vie. Ça, c'est le témoignage d'amour. Et c'est vrai que des fois, il faut utiliser la loi pour montrer aux gens qu'ils ont besoin d'être sauvés de leurs péchés. Et il termine, ou plutôt le chapitre se termine, parce qu'il écrivait sans interruption du chapitre. Réjouissons-nous de son salut. Est-ce que vous êtes heureux d'être sauvé en Dieu? Est-ce que ça vous donne de la joie? Est-ce que ça vous fait sourire? Ou est-ce que vous pensez au fait qu'il y a des inscriptions à la fac, que j'ai pas encore de logement, que le petit est malade, que les anges doivent nous plaindre? Ils voient tout ce que Dieu a fait pour nous, le fait qu'il nous a donné un tel statut dans sa création, d'être ses enfants, d'avoir des capacités de Dieu, de faire de nous ses enfants, et nous on passe notre vie, nos pensées sont sur les problèmes, nos pensées sont sur les inquiétudes, nos pensées sont sur les rancœurs, sur les jalousies, et les anges doivent dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens, ils n'ont rien compris. La main de l'Éternel repose sur cette montagne, et Moab est foulé sur place comme la paille est foulée dans un mare à fumier. Au milieu de cette mare, il tend ses mains comme le nageur les tend pour nager. Mais l'Éternel abaisse son orgueil en même temps que les pièges de ses mains. Il renverse, il abaisse les fortifications élevées de tes murs. Il leur fait toucher la terre jusque dans la poussière. On peut se réjouir que Dieu va aussi punir les méchants. Dans le sens où ces gens qui, par orgueil, Moab, c'était une des nations qui était caractérisée par son orgueil, il va les abaisser. Et il y aura enfin, entre guillemets, une justice sur terre. Souvent, on trouve que le monde est injuste. Dieu va rétablir la justice et on peut se réjouir de ça. Et il a, au verset 10, une très belle expression. La main de l'Éternel repose sur cette montagne. Cette montagne, c'est pendant la période du millénium, c'est sans doute la ville de Jérusalem, la montagne de Sion. La main de l'Éternel, sa bonne main repose sur cette montagne. Mais en même temps, ses pieds sont où? Ses pieds sont sur Moab. Moab qui se trouve dans une mare à fumier. Et il y a une image très forte là, c'est le seul passage de la Bible où il est question de natation. Et la natation dont il est question, c'est quelqu'un qui essaye de se sortir ou de survivre dans une mare à fumier, dans du purin. Et le choix, il nous appartient. On peut être sous sa bonne main ou sous son pied dans le châtiment éternel. Qu'est-ce que vous allez choisir ? Nous avons des raisons de louer Dieu. Et quelque part, c'est tellement injuste lorsque nous venons à lui en nous morfondant, en pleurant. Il nous connaît, Dieu merci. Jésus a pris notre chair, il sait que nous ne sommes que de la poussière, mais en même temps, il nous a donné de telles bénédictions que le chrétien devrait être toujours en train de chanter. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un sourire béat tout le temps au milieu des pires difficultés, avoir un plaisir masochiste à toutes les difficultés qu'on rencontre, mais quelque part, cette louange intérieure, elle doit être là, elle doit être comme la quille du bateau qui vous permet d'affronter toutes les tempêtes. Elle doit être là pour donner à Dieu ce qui est dû. Lui seul est digne de louange. On est prêt à applaudir, on est prêt à s'exciter pour telle ou telle personne, pour tel ou tel artiste, pour tel ou tel programme, pour tel ou tel film, pour telle ou telle équipe de foot, c'est de la louange mal placée. La louange, elle appartient à Dieu. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ce merveilleux passage qui nous rappelle toutes les raisons que nous avons de te louer, de te glorifier, de t'être reconnaissant, de chanter dans nos cœurs si nous ne pouvons pas chanter avec nos voix, Seigneur. Je prie vraiment que tu nous reprennes, que tu me reprennes, Seigneur, pour les fois où je laisse les soucis, où je laisse les inquiétudes, je laisse les circonstances, je laisse mes émotions diriger mon cœur. Seigneur, je veux prendre avec mes frères et sœurs la décision d'être une personne qui te loue dans toutes les circonstances. Parce que je vois que tu as de bons plans, tu es mon Dieu, tu as fait des merveilles et tu vas continuer d'en faire. Tu vas ramener la justice sur la terre, tu vas mettre ta bonne main sur moi, la mort n'existera plus. Ce qui nous fait tellement de mal, ce qui nous fait tellement de chagrin aujourd'hui aura disparu. Les larmes même auront disparu, Seigneur. Comment ne pas entonner un chant de louange? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas parler de toi sans honte, Seigneur? Pardonne-nous lorsque nous nous laissons intimider par l'ennemi. Nous voyons le voile qu'il a mis sur les cœurs autour de nous et des fois il le met encore sur nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, nous sommes faibles, nous ne sommes que de la poussière. Mais par notre faiblesse, Seigneur, si nous te laissons agir en nous, alors tu te magnifies, tu te glorifies. Et Seigneur, tu fais que notre vie, elle change de perspective complète. Et ce qui aurait pu être des vies vécues dans le chagrin, en se morfondant, en se plaignant sans arrêt, Seigneur, ça peut être des vies que tu utilises pour ta gloire. Les gens voient telle personne et se disent, malgré ces circonstances, cette personne est rayonnante de paix, de joie, de bonheur, de foi en toi. Et ça, c'est le meilleur témoignage qui soit, Seigneur. Sois glorifié dans mon cœur, dans le cœur de chacun de tes enfants ici présents. Sois glorifié dans notre ville, Seigneur. Qu'on n'associe pas les évangéliques avec des gens qui sont des rabat-joie, qui ne s'amusent pas, mais au contraire, Seigneur, des gens qui ont compris la vraie joie de te connaître, qui ont montre de la grâce les uns vers les autres, qui sont débordants de ton Esprit Saint, Seigneur, qui font du bien autour d'eux parce qu'ils ont la paix, ils ont la joie, ils ont l'assurance de leur salut. Seigneur, sois glorifié, sois magnifié dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.